Ma première question, c'est, vous avez co-créé, bon là, la première est la plus facile, c'est co-créé le CCM en 2014. C'était un programme assez unique en termes de format et de contenu à l'ESSEC et au-delà. Quelle a été la motivation pour créer ce programme à l'époque?
Alors, un mot d'abord pour te remercier, Stéphane, de ton invitation. On est ravis, Joseph et moi, de pouvoir participer à cette séance un peu commémorative. Et un grand merci à vous de continuer à être éveillé alors que vous avez eu une longue journée. Et voilà, on est un peu, Joseph et moi, le dernier obstacle entre vous et le retour à la maison. Donc bravo de rester éveillé encore quelques minutes. Voilà. 2014, en fait, la direction de la grande école souhaite engager un certain nombre de rénovations dans le cursus. Et l'idée naît de peut-être faire quelque chose dès que la promotion débarque ici, vraiment dans le tout début. Et je suis encore dans un département à l'ESSEC qui ne porte pas forcément bien son nom, c'est un peu le département fourre-tout, qu'on appelle droit et environnement de l'entreprise. Ça, c'est en français. En anglais, on appelle ça public and private policies, ce qui veut encore moins rien dire. Droit, on voit à peu près, mais environnement de l'entreprise. Et en fait, ça m'a donné l'idée de prendre au sérieux cette notion d'environnement de l'entreprise. Environnement environnemental, environnement technologique, environnement géopolitique. Et d'où l'idée de faire un séminaire où on mettrait en connexion ces différentes thématiques-là. Les grands enjeux environnementaux, les évolutions technologiques, les tensions géopolitiques. Et où on essaierait à la fois de donner du sens, de la compréhension, mais on essaierait que ça soit un peu actif, et donc si possible que les étudiants soient mis en situation de faire des propositions, donc d'aller un peu au-delà de simplement la compréhension. Et comme j'ai tout de suite été très conscient de mes limites, je me suis tourné vers Joseph Maïla, qui avait rejoint l'équipe de l'IRENE quelques années avant, et je lui ai dit, mais on a l'opportunité de créer quelque chose au sein duquel la géopolitique aura une portion très très importante. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Tu as déjà dit oui, c'était formidable. Patricia était là aussi. Et on a mis au point ce séminaire qui, dès la première année, avait cette double équilibre, donné à comprendre, avec un équilibre entre des travaux de sous-groupe et puis aussi des interventions en plénière avec des gens qui apportent leur regard, leurs connaissances. Et puis, de l'autre côté, la partie « faites des propositions, changer le monde », c'était très prétentieux comme ambition, mais au fil des ans, on va y revenir après, il y a eu plusieurs idées, des choses qui étaient tout à fait intéressantes. Ça, c'était l'objet. Et puis, c'est vrai que moi, ce qui m'a bien plu dès le départ, c'était de voir que des collègues professeurs de différents départements, pas simplement du mien, mais répondaient présents. Parce que première année, après, on ne savait pas du tout où on allait, si on allait se casser la gueule. Et en fait, non, ça a bien fonctionné suffisamment pour que ça se poursuive avec notre petite équipe durant 5 ans, que Stéphane, après, accepte de prendre la suite et continue à porter, à développer le séminaire dont on marque aujourd'hui les 10 ans. Voilà.
Joseph, un petit mot.
Oui, bonsoir à tous. Merci Stéphane de ton accueil. Alors, moi, je vais simplement ajouter à ce que vient de dire Aurélien que le contexte mondial avait changé. C'est vrai qu'Aurélien m'avait contacté en 2013 et avec Aurélien, nous avons mis au point un programme qui fait que, à tous les niveaux, la grande école, la science, pas la science politique, mais la géopolitique soit présente. Effectivement, le monde était en train de changer à une vitesse absolument considérable. Pourquoi ? Simplement un petit rappel, mais je suis sûr que vous avez tout cela en tête. Nous étions sortis de la guerre froide avec la chute du mur de Berlin. Le monde semblait s'acheminer vers une espèce de fin d'histoire, avec un calme, avec une transition à la démocratie que beaucoup espéraient voir et espéraient atteindre assez rapidement. Et puis, patatras, le monde change. 2008, la Russie envahit la Géorgie. 2008, il y a une crise terrible qui est la crise des subprimes. Le monde est en train de basculer. L'Amérique est en Afghanistan. L'Amérique est en Irak, les États-Unis, je veux dire. Et les choses vont à une allure extrêmement rapide. sans oublier, bien entendu, à partir de 2001, les attaques contre les Twin Towers et les attaques contre les installations aux États-Unis de Al-Qaïda à l'époque. Donc on sentait la montée des périls. Il y avait cet aspect, comprendre un monde qui était en train de, finalement, d'accélérer son évolution. Et il y a un deuxième point sur lequel j'insiste beaucoup, mais Aurélien insistera beaucoup plus que moi là-dessus. La donnée, en quelque sorte, de la mondialisation économique était étroitement liée et reste étroitement liée à l'évolution politique de ce monde. C'est-à-dire que la géopolitique a un impact sur le business, elle a un impact sur le commerce. Regardez, aujourd'hui, il y a une crise qui me fascine, c'est à partir de la crise de Gaza, ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, un peu moins, mais dans ce qu'on appelle la mer Rouge, le Bab el-Mandeb. Et donc, vous avez aujourd'hui des tankers, des gros porte-conteneurs qui transitaient par le Yémen, juste en face du Yémen, qui entraient en mer Rouge, qui allaient vers le canal de Suez, ou vice-versa, et qui se retrouvaient en Méditerranée. Et aujourd'hui, ils font le tour par l'Afrique, comme avant, comme si le canal de Suez n'existait pas. Et du coup, vous avez une multiplication du prix du transport et, bien sûr, une implication dans le prix des biens. Donc, ce qui changeait, c'était des choses fondamentales. On avait vu venir la Chine, mais on ne l'avait jamais vu venir de la manière dont elle a commencé à émerger, notamment en 2012, lorsque, 2013, Xi Jinping devient président. Et maintenant, il est président à vie. Et secrétaire général du Parti communiste à vie. Et la Chine est en train de monter. Et les émergents montent. Donc le monde change à une vitesse. Les BRICS se sont créés en 2014. Et maintenant, tout le monde parle des BRICS. Bon, tout cela. Et les BRICS, on le verra, c'est essentiellement de la population, de l'énergie et des bases productives qui font concurrence à l'Europe notamment. Je m'arrête là.
Avec la crise financière.
Avec la crise financière de 2008, qui était un précédent dont on a parlé, la crise de subprime, la banque, c'est Morgan, JP Morgan, je crois, qui se trouve en situation très compliquée. Voilà. Donc tout cela, c'est une conséquence. Hein. Je ne parle pas du terrorisme, on aura l'occasion peut-être d'en parler. La coalition qui est montée à partir de 2013-2014 pour aller faire la guerre non plus à Daesh, mais ce qu'on appelle l'État islamique. Vous avez les attentats à Paris en 2015, Charlie Hebdo, de Bataclan. Donc le monde devient de plus en plus dangereux. Il faut comprendre ces évolutions aujourd'hui.
Justin, alors, moi je fais ça depuis quelques années. J'ai commencé avec l'invitation d'Aurélien comme professeur d'abord. Et à l'époque, il y a 7 ans, je crois, les étudiants ne sentaient pas très... Bon, il y a toujours des étudiants qui sont très ouverts à toutes ces questions, mais aujourd'hui, on trouve que les étudiants sont très, très aware, comme on dit, conscients de ce qui se passe environnemental, mais aussi socio-économiquement. On avait des questions aujourd'hui très intéressantes sur des aspects divers. Comment vous avez trouvé, quand vous avez commencé, les étudiants à l'époque, ils ont été très conscients, c'était quelque chose de très nouveau pour eux ou,
Alors, le schéma à l'époque était, on avait d'une part des interventions plénières, et on a reçu des gens divers et variés. J'ai essayé chaque année qu'une forme d'équilibre, par exemple une année, on a reçu, lors de la même promotion, quelqu'un qui, à l'époque, était très respecté, un peu moins aujourd'hui, qui s'appelle Carlos Ghosn, qui, à l'époque, était PDG de Renault, Nissan, Mitsubishi, donc la plus grande alliance mondiale de constructeurs automobiles, et qui a fait un discours très cash, le mot est choisi avec soin. Il y avait des polémiques, à l'époque, sur sa paye. Mais on a contrebalancé ça, on a invité Laurent Berger, qui, à l'époque, était à la tête de la CFDT, le premier syndicat français. Et puis, il y avait les groupes. Les groupes, on en proposait, selon les promotions, 13, 14, 15. Et les étudiants avaient la possibilité, je ne sais pas si vous continuez à faire ça, d'émettre leurs souhaits. Et il y avait un algorithme mis au point par un collègue, Gorkem, qui répartissaient les étudiants en fonction de leurs souhaits. Et donc, il y avait quand même une forme des étudiants pouvaient aller dans des groupes qui les intéressaient ou au contraire découvrir quelque chose. Mais il y avait quand même, on tenait un peu compte de ce que les étudiants avaient envie de choisir, de creuser au cours de ces 15 jours.
Alors, disons les choses clairement. Est-ce qu'on peut demander à des étudiants de 18, 20, 22 ans de changer le monde ? Ma réponse est oui. C'est-à-dire que pour changer le monde, il faut avoir des clés. Vous n'allez pas le changer tout de suite, mais au moins avoir les clés qui permettent de dire, voilà, il y a 5-6 pistes, voilà comment il faut travailler. Et alors, moi, je...
Puis en plus, depuis que le séminaire existe, tout le monde voit bien que le monde va beaucoup mieux.
De même. Absolument. Voilà.
Les générations successives de bonnes idées ont quand même réussi.
Non, depuis que l'ESSEC a pris conscience de cela, le monde entier a suivi. Il y a une conscience mondiale à partir de là. Mais Aurélien, ce n'est pas qu'anecdotique. Nous avons été les premiers parmi les écoles de commerce à généraliser la géopolitique à tous les niveaux. Les premiers. Ensuite, les autres ont suivi. Parfois, en nous copiant, mais ça, c'est une autre paire de manches. Mais on n'entre pas là-dedans. Oui, tu voulais ajouter quelque chose.
Disons que sans vouloir se jeter trop de fleurs et tout, mais,
non, mais c'est pas grave.
Le séminaire, qui une fois de plus est parti parce qu'on nous a demandé, c'est un peu comme une commande, et puis on s'est mis autour d'une table avec Patricia, on a trouvé un truc. Le séminaire a plu. Le séminaire a reçu en 2016 le prix de la Fondation ESSEC de l'innovation pédagogique. Et c'est vrai que ça a été la première expérience à l'échelle de toute une promotion pour faire passer des messages d'abord sur les enjeux climatiques. Et aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire l'ESSEC sans avoir une sensibilisation poussée à ces enjeux-là. Et je crois que CCM a été le premier pas dans cette direction. Et de la même manière, c'est ce que Joseph vient de dire, CCM a été aussi le premier pas pour faire en sorte que tous les étudiants aient à un moment une teinture un peu géopolitique. Et on a fait beaucoup de progrès depuis avec des cours de géopolitique qui sont pris d'assaut de trimestre en trimestre. Et scoop, l'ESSEC va aller encore un peu plus dans cette direction-là de tenir compte du fait que, c'est pas moi qui le dis, c'est la US Security Exchange Commission, qui est un peu l'équivalent de l'autorité des marchés. Dans un rapport annuel qu'ils rendent, ils affirment depuis 2015 que le premier facteur qui détermine les décisions des grandes entreprises, c'est plus les enjeux de carbonation, de décarbonation, c'est plus les critères ESG, c'est la géopolitique. C'est-à-dire que les tensions sont tellement exacerbées depuis 2015, et c'est encore plus vrai depuis 2022 et l'agression russe contre l'Ukraine, que le principal facteur qui détermine les grandes décisions des entreprises globales, c'est la géopolitique. Et donc on ne peut pas faire l'économie de regarder de très près cette connexion entre géopolitique et business.
Et j'ajoute simplement que la géopolitique, ce n'est pas seulement l'étude des rapports de force. Quand vous voyez une crise que nous avons vécue il y a quelques années, heureusement que nous en sommes sortis, le Covid, le Covid a fondamentalement bouleversé les choses. Il a manifesté, il a révélé une faiblesse radicale, par exemple, en ce qui concerne l'Europe, pour tout ce qui est production de médicaments. On est allé même chercher, vous vous souvenez pas, qu'on avait besoin pour les masques, on n'en avait pas assez dans les pharmacies françaises ou dans les officines françaises. Il y a eu ça, il y a eu l'environnement dont a parlé Aurélien, qui est une grande crise. Il y a aussi la responsabilité sociale des entreprises aussi. Aller investir dans le monde en ne tenant compte d'aucun critère, simplement mu par la logique du profit, ça ne marche plus. Je ne veux pas rentrer dans les grands scandales qui ont eu lieu à un moment donné où on interrogeait les entreprises sur leur insertion dans les sociétés où elles s'installaient pour produire. Donc, des critères normatifs qu'il faut ajouter à cette vision géopolitique d'ensemble qui, encore une fois, ne se ramène pas à qui est le plus fort, qui a le plus de canons, qui peut envoyer le plus de fusées. Il y a cette dimension, bien sûr. On n'est pas sorti de l'auberge en plus, mais aussi toutes les dimensions de ce que nous appelons la dissémination du pouvoir dans le monde. Du pouvoir médical, du pouvoir de la norme, du pouvoir de l'innovation. On va voir que les GAFAM, par exemple, jouent un rôle extrêmement important dans cette innovation. Nous les intégrons dans une approche géopolitique.
Merci pour ça. Vous avez parlé de l'importance de la géopolitique partout. Vous êtes expert en matière, dans ces matières-là. De votre point de vue, les différentes crises géopolitiques depuis 2014 et avant
ont-elles été une cause, une conséquence, ou les deux, pour des défis de changement socio-économique, environnemental et technico? Parce que là, on a parlé de Suez Canal, on a comme exemple avant. Alors, est-ce que c'est aujourd'hui avec les outils et tout ça, est-ce que c'est une conséquence, est-ce que c'est une cause pour tout ce qu'on on voit géopolitiquement?
Cause, symptôme ou conséquence, un côté un peu l'œuf et la poule. Hein. Ce qui me frappe, c'est que des pans entiers de l'activité économique, comme le transport par porte-conteneurs, les grands flux de denrées alimentaires, l'énergie, qui sont incontestablement des secteurs d'activité extrêmement importants, sont totalement imprégnés de tensions géopolitiques. L'agression russe en Ukraine génère de manière voulue, quand les bateaux militaires russes bloquent en mer Noire les départs de vraquiers contenant des denrées et du blé, provoque une crise alimentaire mondiale. Joseph mentionnait le rôle des Houthis dans le rallongement des flux logistiques par le cap de Bonne-Espérance. On voit bien que y a une perméabilité totale entre ce qui se passe dans des grands secteurs économiques et des enjeux géopolitiques. Si demain la crise entre la Chine et Taïwan s'aggrave, il y a 90% des microprocesseurs les plus fins, ceux qui sont indispensables à l'intelligence artificielle, 90% sont produits à Taïwan même. Si la Chine fait un blocus de Taïwan, mais c'est toute la pointe avancée de l'informatique, de l'électronique, de l'intelligence artificielle qui s'écroule. On ne sait pas fabriquer des supercalculateurs sans ces pièces-là. Je veux dire, durant le Covid, on a vu déjà ce que c'était parce qu'on ne pouvait plus acheter de véhicules automobiles parce que les pauvres chips, les pauvres microprocesseurs minables qui sont mis là-dedans, on n'arrivait même plus à les faire venir. Donc c'est pour ça qu'il y a eu de tels délais d'attente pour avoir une Twingo. Imaginez ce que c'est si on bloque des microprocesseurs de ce type-là. Ce n'est pas la Twingo là, qui est bloquée. C'est toute cette architecture avancée, hyper innovante, qui est totalement bloquée. Bloomberg estime un blocus de Taïwan, c'est 5% du PIB qui tombe. Et si en plus, on comptabilise le blocage des bateaux qui passent par le détroit entre la Chine continentale et Taïwan, c'est plus 5%, ça peut encore être beaucoup plus. Donc, symptôme ou cause
Oui, symptôme ou cause, la question est difficile. Je crois qu'il y a quelque chose aussi qui appartient à l'évolution des relations internationales en tant que telles, qui devient manifeste en 2014 et qui commence en 2003. En 2003, les États-Unis décident d'aller faire la guerre en Irak. Réunion au Conseil de sécurité. Vous vous souvenez peut-être tous du fameux discours du représentant de la France, qui était le ministre qui avait fait le déplacement, qui était M. de Villepin. Et M. de Villepin dit « Non, nous ne voulons pas faire la guerre à l'Irak. La guerre est une aventure. On ne sait pas où ça va finir. » Et George Bush, George Bush Junior, et Tony Blair, premier ministre britannique, décident de faire la guerre. Et ils la font contre l'avis du Conseil de sécurité. Ils n'ont pas la majorité, il y a un risque de veto, on ne vote pas pour éviter cela, et les États-Unis disent, bon, les Nations Unies ne veulent pas faire la guerre, nous irons la faire. Alors pourquoi on prend cette date et qu'on la donne à réfléchir à nos étudiants? Parce qu'à partir de là, il y a ce qu'on appelle la dérégulation du système multilatéral. Si on n'est pas capable de décider entre nous, c'est-à-dire les 193 États qui composent le monde aujourd'hui, et décider de manière collective, et qu'on dit à un moment donné, ben, écoutez, vous ne voulez pas que je fasse la guerre, je la ferai. Ben, ça a donné des idées à qui? À M. Poutine. En 2008, il décide de fait, d'aller, d'annexer la Crimée et de prendre une partie de la, la Géorgie, en 2008. 2014, M. Poutine dit, comme on ne demande l'avis de personne, moi je pense qu'il y a un danger en Crimée. Je prends la Crimée, j'annexe la Crimée qui appartient à l'Ukraine. Et puis le 24 février 2022, guerre en Ukraine. Et donc il y a ce qu'on appelle la dérégulation du recours à la force dans le système international. Alors ça rejoint l'explication que donnait tout à l'heure Aurélien. Et en même temps, depuis qu'il n'y a plus deux superpuissances, il y en avait deux à l'époque de la bipolarité. Ensuite, il y en a eu une seule. Notre ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, disait l'hyperpuissance. Hein, c'était à partir de la chute du mur de Berlin. Et puis maintenant, il n'y a plus d'hyperpuissance. Il n'y a plus de deux, il n'y a plus deux puissances. Il y a une infinité de puissances inégales, de petites puissances. Donc le monde est en train de changer. Et nous vivons, vous vivez à cette époque où le Brésil dit, le Brésil ça compte, un État important, pourquoi je ne suis pas au Conseil de sécurité ? L'Inde, 1,4 milliard qui a dépassé la Chine il y a quelques mois, qui recule elle, en termes de démographie, on ne me demande pas mon avis. Le Nigeria, aucun État africain au Conseil de sécurité. Donc il y a une grande crise aujourd'hui de l'organisation du monde, ce que nous appelons le multilatéralisme. Et ça donne des ailes, des idées à ceux qui peuvent faire s'en aller vers des aventures. Je pense à ce qui se passe en Éthiopie, je pense à ce qui se passe, ce que fait la Chine en mer de Chine méridionale. Et il n'y a plus personne pour dire stop, il faut prendre des décisions collectives. Les États-Unis signent un traité fondamental avec l'Iran sur le nucléaire. Arrive M. Trump en 2015, arrive M. Trump en 2018, il le déchire. Comment un État de cette importance, les États-Unis renient leur parole, reviennent sur leur parole. C'est des choses absolument extrêmement graves. Et donc nous vivons cette période où on voit apparaître des blocs un peu partout et des États qui prétendent, mais au sens noble du terme, qui ont des prétentions à la puissance, qui disent nous aussi, nous voulons jouer dans la cour des grands, c'est ce qu'on appelle les émergents. On le verra tout à l'heure, on reviendra sur cette question.
Merci. Merci. Pensez-vous que les activités ESG, alors ESG, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, ESG c'est environnement, social et governance. Et en particulier la diversité, égalité, inclusion, deviennent des punch points politiques plutôt que la norme pour les entreprises et leur mode de fonctionnement.
Ce sont des aspects qui ont pris leur importance, qui jouent leur rôle. Moi, je ne pense pas être expert pour vous répondre à cette question. Par contre, ce qui me frappe, si on essaie... Pardon, je ne veux pas éviter cette question-là en particulier, mais si on réfléchit à une évolution qui frappe le monde des entreprises et qui peut servir de punch bowls, c'est justement que si on compare la manière dont on fait du business en 2014 et la manière dont on commence à faire du business maintenant... Des choses qui ont changé, c'est-à-dire qu'en 2014, fluidité dans la circulation, les visas. Aujourd'hui, ça devient plus compliqué. En 2014, n'importe quelle entreprise peut grosso modo aller investir où elle veut. Aujourd'hui, il y a des pays de plus en plus qui disent non, non, ça, vous ne rachetez pas. La Chine a pu, par exemple, dans les années 2010, prendre des positions financières dans des ports. La Chine a racheté des ports, port du Pirée. La Chine a voulu racheter des aéroports. Moi, ils sont intéressés à l'aéroport de Toulouse, avec Airbus à côté. Aujourd'hui, non, les États disent non, non, ça, vous ne rachetez pas. C'est plus possible. Et à une époque où les entreprises se sentaient libres, tranquilles, confortables pour aller investir partout où elles voulaient, aujourd'hui se posent plutôt des questions qu'on qualifie de, en anglais, de reshoring, nearshoring. Et même friendshoring. C'est-à-dire que nos activités, on ne va pas les mettre le plus loin possible là où c'est le moins cher. Non, il faut qu'on soit un peu plus stratégique et qu'on les mette plus près des endroits où c'est mieux contrôlé et où on ne peut pas du jour au lendemain tout nous ratiboiser. Quand vous regardez en 2014, malgré la Crimée, malgré le Donbass, les entreprises européennes investissent en Russie. Renault rachète Avtotaz. Tout le monde investit en Russie. Danone. Et quand vous regardez ce qui s'est passé pour toutes ces entreprises-là depuis 2022, où grosso modo, une Kalachnikov sur la tempe, les oligarques russes ont dit « tu vends au quart du prix, sinon on te prend tout », enfin, c'est qui demain, quoi qu'il arrive en Ukraine et ailleurs, qui demain, si ce régime-là demeure au pouvoir à Moscou, voudra aller placer ses billes dans ce pays-là? Donc, si on compare un peu la manière dont on faisait du business en 2014 et aujourd'hui, je pense que la globalisation heureuse, si elle a jamais existé, est remplacée par une globalisation visqueuse, où on fait très attention avant de déplacer des assets, des investissements, des collaborateurs, parce qu'on s'est bien rendu compte que c'était pas aussi rose, quoi. Voilà.
Joseph.
Oui, plus rapidement et plus généralement, il y a, j'observe un peu cela, deux tendances dans le monde aujourd'hui. Ce qu'on peut appeler une tendance normative. On met de plus en plus d'ordre dans des questions qui nous concernent tous. Lutter contre une épidémie comme la lèpre, comme le Covid. À un moment donné, c'était le virus du sida. Vous avez une mobilisation qui se fait. Parce qu'aucun État dans le monde aujourd'hui ne peut gérer tout seul des questions aussi fondamentales, par exemple, que le réchauffement climatique. Donc vous avez quelque chose que je vais qualifier de généreux. Une prise de conscience, effectivement, que la planète est en train de passer par des moments difficiles et qu'on ne peut pas résoudre tout seul la question. Et en même temps, c'est l'envers de la médaille, vous avez une course au pouvoir. Qui fait, alors on le verra tout à l'heure sur un PowerPoint là, qui fait que nous avons l'an dernier, en 2023, explosé le montant des ventes d'armes dans le monde. Vous savez combien d'armes ont été, quel est le montant des ventes totales d'armement dans le monde, avec les budgets qui vont avec, on reviendra sur les budgets. On a vendu et acheté des armes pour 2 000 milliards, 2 trillions, si vous voulez, pour parler comme les économistes, 2,4 trillions en achat d'armes. Il n'y a pas de guerre mondiale, j'espère qu'il n'y en aura pas, mais un vieux penseur qui s'appelait Thomas Hobbes, que vous avez dû voir dans vos études, et qui disait, on ne s'est jamais posé la question de savoir pourquoi en temps de paix, les États s'arment aussi massivement, si ce n'est pour préparer la guerre un jour. Donc il y a une perception de la conflictualité qui se fait. Et aujourd'hui, par exemple, on avait établi, grâce à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, des règles. Tu parlais tout à l'heure, Aurélien, des produits sensibles. Aujourd'hui, avec la montée des voitures électriques chinoises, et il y a une tendance, M. Trump l'a dit, je crois, que s'il était président, il taxerait à 100% les voitures chinoises électriques si elles venaient à débarquer aux États-Unis, et elles vont venir à débarquer. Déjà, il avait dit, mais même les voitures européennes, comme elles seront taxées. Alors, je pense à une stratégie Mercedes qui s'était installée au Mexique, je crois, pour créer des Mercedes, donc pour monter des voitures Mercedes et les vendre avec une main-d'œuvre moins coûteuse et les introduire. M. Trump a dit, mais attendez, est-ce qu'il y a du matériel américain là-dedans? Et donc, dès qu'il y a de l'acier ou dès qu'il y a des produits électroniques ou qu'il y a un système de freinage, immédiatement, c'était 25% d'augmentation. Et donc, on va vers des systèmes de compétition généralisée, alors que le monde a besoin d'une coopération générale. Et donc, c'est cette faillite du système multilatéral qui fait qu'il n'y a pas de concertation, que la coopération est minée. Il y a une affaire qui nous a intéressés tous à un moment donné, 2009, je crois. Les États-Unis avaient dit qu'il était interdit de commercer avec l'Iran. Et donc une banque française, la BNP, pour ne pas la nommer, la BNPI, avait prêté à des acheteurs, avait fait un prêt pour acheter du pétrole iranien, je crois, mais il l'avait fait sur une banque installée en Suisse et qui devait exporter du pétrole qui ne passait pas par les États-Unis. Les États-Unis ont rattrapé la BNP et lui ont infligé l'amende la plus spectaculaire que le monde des affaires ait connue, 9 milliards de dollars. Et pour quelle raison ? Pour avoir utilisé, alors que la BNP n'était pas concernée par des sanctions américaines sur l'Iran, le dollar américain. Et donc tout le monde pensait que le dollar américain était une monnaie universelle. Et donc il y a eu un rappel en disant non, le dollar américain est d'un usage universel, mais c'est une monnaie nationale. Donc un pays qui utilise la monnaie nationale des États-Unis pour détourner des sanctions imposées par les États-Unis viole la règle des sanctions établies par les États-Unis. Et bien sûr, la BNPI a payé rubis sur l'ongle, parce que sinon, toutes les succursales de la BNPI, notamment aux États-Unis et au Canada, allaient être fermées. On ne pouvait plus travailler. Donc voilà une utilisation, par exemple, d'un élément de souveraineté nationale, qui est le dollar. La monnaie d'un pays, c'est, lui appartient, et qui finalement est utilisée. Alors on a inventé un nouveau mot en anglais. Il y a warfare, qui veut dire la guerre. Et on a inventé le mot de lawfare, la loi. Hein, faire la guerre par la loi, en utilisant la loi, la généralisation des sanctions. Donc on est un peu dans cette période un peu où on balance entre l'inclusivité, la coopération, l'ouverture et en même temps la compétition la plus forte. On a perdu le sens de la règle. Il faut à un moment donné refonder le système international.
Merci Joseph. Une dernière question sur les géos. Les questions géopolitiques et après une dernière question sur comment ça va influencer le futur du travail mais aussi les compétences futures pour les étudiants. Juste une question, selon les prévisions de Goldman Sachs, la liste des principales puissances économiques va changer dans les années à venir avec la Chine, l'Inde et l'Indonésie parmi les quatre premiers pays et plusieurs pays africains comme le Nigeria et l'Égypte parmi les 15 premières. Dans quelle mesure vous pensez que ces prévisions sont réalistes et quelles sont les implications de ces changements, pour que les défis socio-économiques et environnementaux.
Oui, merci pour la question qui est un peu difficile, mais avec Aurélien, on a préparé quelques slides qui vous permettront de comprendre un petit peu où est-ce que nous allons hein, sur le plan du rapport économique dans le monde. Ça, c'est le PIB universel, mondial, hein, la valeur ajoutée, les valeurs créées chaque année. Regardez trois grands pays, trois grandes masses qui apparaissent. Donc le produit, comment on appelle ça, le PIB, le produit industriel, le PIB mondial se monte à 105 trillions, 105 000 milliards, d'accord. Les États-Unis, c'est un tiers, c'est 26,9 trillions. La Chine, c'est 19. Et on ne le voit pas très bien sur la carte, mais vers la gauche, vous avez... Est-ce que je peux pointer ? Non. Vous avez l'Europe. Donc, le monde est divisé en trois parties, du point de vue de la production et de la richesse. Un premier grand bloc, qui est l'Amérique, qui est les États-Unis, qui est la plus grande production, le pays le plus riche du monde. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, vous allez trouver des chiffres contradictoires, parce qu'on peut additionner simplement les dollars, et puis on peut faire des analyses plus subtiles, hein, qui consistent à dire, avec 10 dollars, combien de hamburgers vous pouvez acheter aux États-Unis ? Peut-être 2. Mais si vous avez 10 dollars, vous pouvez acheter 10 hamburgers en Chine, ce qu'on appelle la parité de pouvoir d'achat. Donc on a ces trois pays, ces trois blocs. Hein. L'Europe n'est pas un pays, c'est un continent, donc il faut additionner. Les USA et la Chine sont trois. Donc c'est 60% de la richesse mondiale. Imaginez ce qui reste. Il reste 40 milliards qui doivent se distribuer par 40 milliards. Donc on est à 105, il y a 400 milliards qu'il faut répartir pour le reste des pays. Trois grands blocs font deux tiers de la richesse mondiale. Donc la première question à avoir en tête, c'est les inégalités se creusent au plan mondial. Mais, bien entendu, les pays sont en pleine compétition. Regardez un petit peu pour répondre à la question de Stéphane. Alors, Stéphane dit que c'est Goldman Sachs, mais depuis longtemps, IMF, c'est-à-dire le Fonds monétaire international, a fait des projections. Vous avez une projection qui est en rouge avec une flèche. Aujourd'hui, la Chine, 18% de la production mondiale, d'après IMF, mais ça date de 2016. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est 2050. En 2050, la Chine passe première. Les USA vont passer second avec 12%. L'Europe passe à 9% de la production mondiale et c'est l'Inde qui est au bout qui va passer à 15%. Donc il va y avoir un nouveau classement dans l'ordre de la puissance économique. Ça, c'est un des effets des pays qui montent. Là aussi, nous aimons beaucoup ces scénarios que nous faisons. C'est un autre scénario où vous voyez la France être dixième, par exemple, en 2016. La Chine est première. Encore une fois, ce n'est pas tout à fait le cas. C'est parité de pouvoir d'achat contre montant nominal, hein. Vous avez la même somme d'argent, mais vous pouvez acheter plus, donc vous passez en premier. Donc remarquez à chaque fois, quand vous avez des statistiques, pour voir si c'est du nominal ou de la parité de pouvoir d'achat. Chine, USA, Inde, Japon, regardez en 2050. La Chine, l'Inde, les USA passent en troisième. Mais comme disait Stéphane tout à l'heure, l'Indonésie, le Brésil, Mexico et les classiques, ce que nous appelons les puissances établies, par opposition aux puissances émergentes, c'est-à-dire le Japon, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, passent en 9 et 10e point. Et vous remarquez sur ce schéma que la France est passée à la trappe. Donc on doit être 11e. Mais qui vivra, verra, c'est 2050. Voyez un petit peu les projections aussi sur l'évolution du PIB mondial, avec des courbes qui montent, qui sont celles de l'Asie, et des courbes qui stagnent ou qui descendent, USA, Europe, et puis le Proche-Orient et l'Amérique latine qui montent. Autre chose d'important, alors ça c'est un grand espoir pour l'avenir, pour demain, la production de richesses se fait dans l'innovation technologique dont parlait Stéphane tout à l'heure, les transformations technologiques. Et regardez aujourd'hui, Google, Apple, Amazon, etc., qui sont toutes des sociétés, c'est vrai qu'il y a Alibaba et d'autres, mais qui ne tiennent pas le rang aussi, de manière aussi importante. Et regardez entre parenthèses, au bout de la ligne, c'est ce qu'on appelle le R&D, c'est-à-dire ce que vous avez dégagé comme bénéfice, mais que vous n'allez pas réinjecter dans la production, mais que vous allez garder pour produire de l'innovation. Et les pays qui vont aller de l'avant sont les pays et les entreprises qui sont capables d'injecter de la recherche technologique pour faire avancer leurs produits. Alors ça, c'est simplement pour terminer, pour regarder le résultat. C'est ce qu'on appelle les LDC, les Least Developed Countries in the World. Bon, c'est les pays les plus pauvres. Hein. 193 pays, ici vous devez en avoir une quarantaine, donc faites 193 moins 40, on a du G7, on a du G20, et regardez, la plupart des pays se concentrent en Afrique. L'Afrique s'appauvrit. Hein. C'est vrai qu'il y a des pays riches comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, qui sont riches potentiellement, l'Égypte, mais en Égypte, il y a une richesse formidable, c'est vrai, potentiellement. Mais l'Égypte s'accroît de 1 million de personnes par an. Nous en sommes aujourd'hui à 105 millions. Le 1er janvier 2005, le compteur sera à 106 millions. Donc la démographie est une bonne et une mauvaise chose si vous n'avez pas de possibilité. Alors, en 2023, le rapport au pouvoir, donc les States Military Expenditures, 2 trillions 240. Et donc les 10 pays les plus riches sur le plan de la production d'armement, qui sont à peu près 73% du total de production d'armes, c'est les USA, la Chine. La France est au troisième rang de production et d'exportation d'armement. Et puis regardez ce chiffre qui est impressionnant, hein. C'est le budget des États-Unis, un budget qui ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Nous en sommes en fin 2023, parce que le budget a été voté pour 2024, 916 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars, budget des militaires des États-Unis. Et vous avez en face les 10 pays, les 10 autres pays. C'est l'équivalent de 10 pays. Donc la Chine est en train de monter progressivement. Le grand mouvement, le grand moment géopolitique, c'est la montée de la Chine. La Chine est à 295 milliards de budget et est en train de produire un quatrième et un cinquième porte-avions. Donc il y a, les États-Unis ont 15 porte-avions une centaine de sous-marins normaux à diesel, si j'ose dire, et puis une vingtaine à propulsion nucléaire. Donc on est très loin. Il y a 6 000 têtes de missiles russes, il y en a 5 900 américaines, et avec ça, vous pouvez faire exploser la planète 100 000 fois. Hein. Voilà. Donc on accumule les armements, et c'est un peu... Alors ça, c'est une photo impressionnante, hein. C'est pour faire peur, ça. C'est la flotte américaine au large de la Méditerranée, quand elle s'avançait, pour aller surveiller les événements au large d'Israël, de Gaza et du Proche-Orient. On appelle ça en géopolitique « projecting power ». Regardez comme ils sont bien alignés. C'est « voilà, j'arrive, ayez peur ». Voilà, donc un tour d'horizon rapide sur ce...
Oui. Bah, merci beaucoup pour cette présentation. Une dernière question, retournée à la thème, et c'était la question de pour nous et les compétences pour le futur, pour les étudiants, mais aussi pour les compétences clés dans le monde des affaires. Comment tous les changements, les changes et les défis, et je pense Anders aujourd'hui, il a parlé au début, il a expliqué, moi je préfère que les étudiants ils apprennent six mois quelque chose de biodiversité, biologie, climat et tout ça avant de s'engager dans les finances et l'économie. Qu'est-ce que vous pensez, à quel changement pouvons-nous attendre au cours des 10 prochaines années, et en ce qui concerne les compétences clés dans le monde d'affaires? Bah, à la fin, c'est aussi pour les étudiants qui vont dans le monde.
Alors, il y a différentes études sur ces compétences clés. Chaque année, je ne sais plus quel organisme annonce les 10 compétences clés. Moi, je regarde toujours avec intérêt celle qui est ma spécialité depuis 25 ans, c'est-à-dire la négociation. Elle ne quitte jamais ce top 10. Et en fait, pourquoi ? Parce que, quelles que soient les interfaces technologiques, quels que soient les sujets sur lesquels on travaille, les pays, etc., comme à la fin des fins, faire du business, c'est interagir avec autrui. Donc la capacité à prévenir les tensions, à dénouer des conflits, à créer des accords qui permettent à chacun de s'y retrouver, ça, c'est indépassable. Indépassable. Et je crois que dans un monde qui se technologise de plus en plus, la base, ça sera de maîtriser ces technologies. Donc moi, j'ai hâte que l'ESSEC mette en place des formations qui permettent à nos étudiants d'utiliser de manière intelligente tout ce que l'AI générative permet, ChatGPT et tout ça, mais voilà, il faut apprendre à l'utiliser et à gagner du temps pour pouvoir ensuite utiliser sa bande passante sur des aspects où là, il y a une valeur ajoutée humaine que l'AI ne s'est pas encore en plein placé. Donc ça, il faudra contrôler, maîtriser toutes ces technologies-là. Mais après, ce qui, à mon avis, fera la différence, c'est la capacité à interagir de manière fluide, productive, respectueuse, avec tous les stakeholders d'un système. Voilà. Et ça, c'est l'humain. Et je conclue en disant que je crois que l'idée qui était la nôtre avec Joseph et Patricia il y a 10 ans, elle demeure, c'est qu'on a besoin de tenir les bouts de la chaîne. Si on ne comprend pas, on ne peut pas prendre les bonnes décisions. Mais par ailleurs, si on ne fait que comprendre sans avoir ensuite l'envie, la volonté, parfois le courage d'agir, de prendre des décisions, ça ne suffit pas non plus. Il faut les deux. Et moi, le souhait que je forme pour vous, et vos successeurs, c'est qu'on continue à l'ESSEC de faire passer ce message-là. Des gens courageux mais idiots, ça ne va pas. Des gens intelligents mais couards, ça ne va pas non plus. Donc il faut continuer à comprendre et changer le monde.
Merci. Et Joseph, un dernier mot ?
C'est le mot de la fin. Non, je ne sais pas. Est-ce que le mot de la fin,
On a des questions, peut-être.
Il y a des questions, pardon. Alors, je vais être très rapide et très bref, en étant d'accord, bien sûr, avec ce que le directeur de l'Irénée, donc je suis chez lui, là, donc je ne peux être que d'accord avec lui. Donc non seulement je suis d'accord avec lui, mais je voudrais insister sur ce qu'il a dit, une chose importante. Il a montré la prise de décision complexe. Et la géopolitique est véritablement à ce niveau-là. Et quand il y a des décisions, il n'y a pas simplement que du marketing, de savoir où on est le cash flow et où en sont les investissements. Il faut comprendre le monde dans lequel vous agissez. Et donc la prise de décision est complexe, elle doit intégrer le risque. Et la géopolitique, c'est l'étude du risque, c'est tout. Hein, si vous voulez la ramener du point de vue du business, du commerce, vous vous dites, bon, c'est formidable, mais je crée mon entreprise dans quel environnement, dans quelle stabilité? Est-ce que je suis assuré de pouvoir mener les choses jusqu'au bout? Prise de décision complexe. Et deuxièmement, la polyvalence. La géopolitique m'a appris la polyvalence. Dans la définition du pouvoir et du risque, il n'y a pas, encore une fois, que les canons et les avions. Il y a l'innovation technique, il y a ce que nous appelons le soft power, que vous connaissez, le soft power, la force d'innovation, la force des idées. L'idée, par exemple, que la France projette, quand elle organise les Jeux olympiques de 2024, un savoir-faire, une compétence, une mobilisation qui relève de l'entertainment, comme disent les anglo-saxons, du spectacle. Mais le spectacle est un producteur de richesses fondamentales. Le sport et le spectacle sont les mamelles du monde de demain, si l'on peut dire, à part l'industrie et toute la technologie. Vous avez un aspect là où on peut investir à l'infini. Voilà, je m'arrête là.
On a deux, trois minutes max, parce que je sais que vous avez aussi une réunion à 18h30 où vous partez. Mais est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on a des questions pour... mes collègues.
Ne nous dites pas qu'on a écrasé les questions.
Est-ce qu'il y a... Oui.
On peut l'applaudir. Hein. Attendez, elle pose une question.
Vous parliez beaucoup de la gestion des crises et des conflits. Et en ce moment, donc, le monde est vraiment hyper chrysogène, notamment avec le conflit à Gaza, par exemple. Et est-ce que vous pensez qu'un jour, les dirigeants iront au-delà de l'aspect business et prendront en compte plus l'aspect humain aussi pour justement entamer des négociations et essayer que la situation change? Ou au contraire, non, puisqu'il y a beaucoup de sanctions qui ne sont pas encore mises en place contre les dirigeants justement qui causent des dégâts aujourd'hui.
C'est une très bonne question et je vais vous donner un exemple concret, massif, historique, monumental, qui souligne que oui, heureusement, certains dirigeants politiques ont eu ce courage-là de considérer l'humain et pas seulement le business. Nous vivons, vous vivez, dans un espace géographique et dans un temps absolument unique. Parce que jamais dans l'histoire, et aujourd'hui nulle part ailleurs sur la planète, vous avez 450 millions d'êtres humains, on les appelle les Européens et les Européens, qui vivent en paix depuis si longtemps, avec un tel niveau de prospérité, avec un tel niveau de solidarité entre les générations, entre les territoires, entre les classes sociales, et avec un tel niveau de droits humains. Ça s'appelle l'Union européenne. Ça n'a jamais existé dans l'histoire, une telle combinaison de paix, de prospérité, de solidarité et de droits humains. Et ça n'existe nulle part ailleurs sur la planète. Donc c'est ma réponse à votre question.
Très rapidement, ce que dit Aurélien est important parce que, au fond, l'Europe peut être un modèle de la résolution des conflits. On a surmonté nos différends après deux guerres mondiales atroces. Et on est arrivé à créer un système de coopération et de multilatéralité, puisque nous sommes à 27 aujourd'hui après le Brexit et on fait à peu près un peu moins que 500 millions. Donc ça c'est un. Deux, effectivement, ça n'empêche pas. C'est Joseph Borrell qui a eu cette phrase à la fois juste et malheureuse, et qui a dit « L'Europe est un jardin dans une jungle ». Et immédiatement, il y a eu une protestation. Parce que ça fait un peu privilégié. un jardin dans une jungle. Hein. Tout autour de nous, c'est la guerre, et puis le jardin européen où tout va bien, où on règle nos problèmes dans la discussion. Mais c'est le monde dans lequel on vit. Et effectivement, il faut espérer. Alors, avec Aurélien enseigne la négociation, moi j'enseigne la médiation. Ce sont des instruments de rapprochement des peuples. Regardez la discussion qui n'aboutit pas sur les négociations sur la libération des otages. Mais ça continue. Regardez notre premier ministre aujourd'hui qui a passé deux ans, un peu plus que deux ans, à négocier le Brexit. Deux ans de négociations pour savoir comment sortirait quelle sortie était envisageable pour la Grande-Bretagne. Regardez aujourd'hui des négociations qui n'aboutissent pas sur l'Ukraine, qui est malheureux. Pendant que nous parlons de l'Ukraine, de Gaza, il y a un conflit qui a déjà fait 100 000 morts en 6 mois. C'est le conflit du Soudan. Qui en parle? Où il y a de la famine, etc. Bon, donc il faut aller avec courage hein, vers ce monde compliqué et tellement différent et privilégier la parole sur le recours aux armes.
Une dernière question, si on a une. Une dernière question. Vous avez? Non. Bon, c'était un jour très long, je pense pour tout le monde. C'est pour ça, j'aimerais bien merci à Aurélien et Joseph pour être là ce soir. Et j'espère peut-être en 10 ans, on se peut revoir pour faire la fête pour le 20 ans. Un grand merci à vous deux et à les étudiants.